Déviation numéro 17. C'est donc le début de la 17e déviation. Ce soir, j'invite une femme du pays tchèque à propos, comme point de départ de cette émission. On va parler de la situation à Maillard et Duclos, qui est une entreprise donc, du pays tchèque de travaux publics et qui a des problèmes. Et bon, on pourrait peut-être en situer cette entreprise et raconter un peu l'historique de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore maintenant. Oui, il faut dire oui, autrement qu'en bougeant la tête, parce que les auditeurs ne peuvent pas entendre.
D'accord. Bon, on en avait parlé il y a à peu près un mois. Déjà, c'était déjà déviation ou c'était une autre émission?
C'était un semblant de déviation.
Bon, c'était un semblant de déviation, bon. Donc, cette entreprise qui a toujours été dans le pays, qui a fait la plupart des immeubles locaux, avait donc renvoyé, licencié 26 personnes de son personnel. Et sur ces 26, il y en a 22 qui ne sont pas d'accord avec le fait d'être licenciés dans les conditions où ça se passe. Et qui ont donc décidé de refuser les licenciements et de faire changer les décisions telles qu'elles ont été prises au 13 décembre. Le 13 décembre, c'était l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, et puis le 16 décembre, les lettres de licenciement ont été envoyées. Donc les grévistes ont réfléchi un petit peu, enfin les grévistes, ils n'étaient pas grévistes à l'époque, les travailleurs ont réfléchi, et comme ils ont pensé que ce que l'entreprise voulait, c'était liquider l'ensemble de l'agence qui est dans le pays de Gex, ils ont décidé que tous ensemble, qu'ils soient licenciés ou pas actuellement, ils allaient faire une action parce que ceux qui n'étaient pas licenciés se sentaient solidaires des autres et savaient que leur tour viendrait après. Donc ils se sont mis en... Ils ont occupé les locaux progressivement de l'entreprise, les bureaux et le dépôt le 22 et le 23 et puis ont annoncé qu'ils cessaient le travail en même temps. Alors ça fait maintenant 6 semaines que ça dure. Depuis un mois, il y a eu beaucoup de péripéties diverses, mais la situation n'a pas bougé d'un poil en dehors de ça. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, le patron, relativement soutenu par la direction départementale de l'emploi qui avait autorisé les licenciements, veut maintenir les licenciements. Et les grévistes n'acceptent toujours pas ces licenciements. On avait demandé donc pour remplacer les licenciements qu'il y ait un partage du temps de travail entre l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sur Ferney-Voltaire et que la partie du temps qui ne serait pas travaillée serait utilisée pour une formation technique ou générale qui leur permettrait d'être plus efficaces à l'avenir et de se recaser plus facilement si éventuellement le problème un jour se posait de nouveau. Ils refusent leur licenciement parce qu'ils jugent qu'il y a du travail et puis que l'entreprise joue les entreprises en difficulté mais qu'elle ne l'est pas autant qu'elle voudrait le dire. Et puis d'autre part, ils pensent que sur le pays de Gex, la situation dans le bâtiment est telle qu'il y a largement du travail si les cadres et la direction de l'entreprise veulent se donner la peine d'en trouver. Alors à la journée d'aujourd'hui, on en est où exactement? On a fait des nouvelles propositions complètement différentes sur la résolution du conflit, c'est-à-dire que bon, on demande toujours la suppression des licenciements. Mais comme on a appris par ailleurs qu'il y a un gros contrat pour la société en liaison avec une autre boîte de Lyon qui s'appelle Pitance pour la construction de la piscine de Prémalville. Bon, c'est pas une piscine pour nager dedans, c'est une piscine refroidir l'uranium. Il y a à peu près autant de travail, paraît-il, sur ce chantier-là que sur ce qui vient de se finir, qui est la première étape de la construction de la centrale.
De Superphénix.
Superphénix, ouais. Étape 1. Et si l'étape 1 marche bien, on peut penser que l'étape 2 va suivre dans la foulée. Donc il y a du travail pour plusieurs centaines de travailleurs. Et comme Maillard et Duclos a eu le marché, on pense qu'il a largement là de quoi utiliser tous les travailleurs de l'entreprise de Ferney. Donc on a fait une proposition qui est l'envoi global de toute l'équipe de travailleurs de Ferney en formation entre février et juin. Et tous ensemble, soit dans un centre à Grenoble ou à l'île d'Abeau ou à Chambéry, là où il y a la capacité technique pour les accueillir et leur donner une formation, gros œuvres, maçonnerie, coffrage.
Et toute l'équipe de Maillard et Duclos, c'est-à-dire?
Ils sont 64.
Mais c'est-à-dire pas uniquement ceux qui sont menacés de licenciement, les autres aussi.
Les autres aussi.
Ils n'ont pas un travail, les autres, actuellement?
C'est-à-dire que l'entreprise, au mois de décembre, disait qu'elle avait du travail pour 30 personnes. Et puis quand les gars sont mis en grève, elle leur a dit « Ah bah oui, mais vous savez, en réalité, on faisait beaucoup d'efforts pour utiliser 30 personnes, on n'avait plus du travail que pour 27. Puis au cours des semaines, il y a soi-disant du travail. Enfin, la dernière fois qu'on les a vus, lundi dernier, il n'y a plus du travail que pour 9 personnes. »
Mais en fait, ils cherchaient plus de travail.
Ça c'est les marchandages en période de grève. Le patron dit n'importe quoi pour aller au-delà et nous décourager. Alors ce qui fait que le travail qu'il y a actuellement est de toute façon pas très important, soi-disant. Alors nous, on parle là-dessus, on dit s'il n'y a plus de travail, ce que nous dit l'employeur, tout le monde va en formation. S'il y a du travail à faire, on voit comment on s'arrange pour le faire. Mmh. Et puis, s'il y a une période de creux véritable, la question pour nous est toujours un peu, on doit toujours faire nos propositions sur deux plans, où l'entreprise raconte des histoires, où c'est vrai. Mais pour nous, c'est absolument pas possible de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a, on voit toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point c'est pas vrai.
Parce que c'est une situation qui n'a jamais eu lieu. Parce que ça, on en avait parlé là, donc à la fausse déviation où tu étais venu. À la CFDT, il n'y a pas de permanent dans le pays de Gex parce que c'est pas assez de monde. C'est pas une entreprise, c'est pas un organisme assez important. Et donc, c'est des gens comme toi qui travaillent par ailleurs, qui s'occupent aussi de coordonner ce qui se passe au niveau des syndicats quand il y a des problèmes dans le pays de Gex. Et ça, c'est une situation que vous n'avez jamais rencontrée avant.
Laquelle? Celle de la grève ou celle des licenciements?
Non, le fait que tu dis on ne sait pas si ce qu'il dit est bidon ou si c'est vrai.
C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens d'aller vérifier. On n'a pas les moyens, par exemple, sur l'histoire de Crémalville, le patron dit « Oh non, j'ai du travail pour 50 personnes ». Le cubage de béton dont on a entendu parler pour ce chantier-là, en comparant avec les autres choses, nous fait penser qu'il y en a pour plusieurs centaines de personnes. Il faudrait qu'on puisse voir le contrat qui va être passé ou qui est en signature pour qu'on puisse voir exactement combien il y en a.
Il pourrait y avoir d'autres entreprises sur le même travail.
C'est-à-dire, il y a deux entreprises ensemble. Oui. Mais de toute façon, on pense que pour ces deux entreprises, ça fait un sacré paquet de boulot. Quand ils ont fait la centrale actuelle, ce qui vient de se terminer, Fougerolles là-bas avait 2000 gars. C'est un gros machin et ça a duré plusieurs années. Et on sait que l'histoire de la piscine, ce qui est en train de se faire maintenant, de se négocier maintenant, il y a 2 ans de travail, il y a 24 mois de travail et vraisemblablement plusieurs centaines de personnes. Alors le patron nous dit non, il y a 50 personnes. On pense que c'est nettement en dessous.
Oui.
Mais à savoir s'il y a du travail pour 200, 500 ou 1000 personnes, tant qu'on ne voit pas le contrat, on ne peut pas le savoir. D'autre part, l'entreprise nous dit qu'elle a des difficultés. qu'elle n'a pas de commandes. Nous, on pense qu'elle sous-traite une partie de ses commandes à une autre entreprise. Bon, on a des indices très forts qui nous font penser que cette entreprise est en somme une filiale. Bon, pour en être sûr, il y a des vérifications, je dirais, de type financier qu'il faudrait faire dans les documents de l'entreprise. Bon, jusqu'à maintenant, avec les lois Auroux, ça va devenir plus facile pour les travailleurs d'obtenir, mais toujours à long terme, parce que chaque fois que les travailleurs demandent des documents, c'est très long avant que l'entreprise, en général, les fournisse. C'est toute une bagarre.
C'est-à-dire que, par exemple, là, vous avez utilisé ces principes de cette loi en disant au patron de Maillard Duclos, on a droit d'avoir accès aux renseignements, donc vous vous débrouillez comme vous pouvez, que ça vous chante ou pas, il faut que nous on ait ces renseignements.
Bon, justement, il y a eu un comité d'établissement hier où les deux délégués du personnel ouvrier ont rencontré le directeur et justement ils lui ont posé toute une série de questions. Et les réponses n'ont pas été satisfaisantes. Et si j'en crois, enfin, d'après ce qu'ils m'ont dit, on n'a pas encore le compte rendu, mais il semble qu'ils aient décidé à la fin de la réunion, ils ont voté de porter une plainte devant le procureur pour entrave à l'information.
Pour non-application des lois, donc.
C'est ça. Parce que normalement, dans une entreprise suffisamment importante de plus de 50 personnes, chaque fois qu'il y a un lieu de plus de 50 personnes, il y a normalement élection d'un comité d'établissement. Et quand une entreprise a plusieurs lieux importants, il y a un comité central qui regroupe des délégués de tous les établissements. Et maintenant, par la loi et avec les lois Auroux, ces délégués ont un droit de regard et le droit de faire nommer un expert qui les aide à comprendre exactement ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, chez Maillard, il y a un comité d'établissement qui fonctionne à Ferney depuis plus de 10 ans. Et puis, il y a un comité central qui fonctionne à Bourg et qui a des gens de Lyon, Mâcon, Bourg et Ferney. Et puis, certains qui viennent de Cannes et de Paris aussi. Alors, justement, le comité d'établissement de Ferney, hier, semble avoir eu des réponses peu satisfaisantes. Mais là, moi, je n'ai pas encore les détails. Parce que, bon, je sais que les gars ont contacté l'avocat pour porter plainte.
Moi, une question que je me pose par rapport à cette situation, c'est une grève donc qui dure depuis le 13 décembre.
Ça paraît le 23
décembre. Bon, ça paraît assez long. Est-ce que dans le pays de Gex, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, couramment, pas du tout? Ou est-ce que c'est parce que ce patron-là est quelqu'un de particulièrement ferme, strict? Ou est-ce que c'est quelque chose d'habituel?
Oui, dans le pays de Gex, enfin, c'est pas habituel, mais effectivement, les grèves sont très longues. On a eu les grèves sur les chantiers du bâtiment ont toujours été longues. Alors en général, c'est peut-être l'ordre de 3 semaines à 1 mois, dans les années 70. Sur les chantiers du CERN, on a eu plusieurs fois des grèves de 3 semaines à 1 mois.
Oui.
Et puis chez Maillard, on a eu aussi une grève qui a dû durer déjà 1 mois ou 5 semaines en 74. Et puis avec le renforcement des structures patronales et le durcissement en somme des forces patronales depuis qu'il y a la crise, soi-disant, depuis 5 ans en somme, les grèves durent encore plus longtemps. La grève de Maillard et Duclos a déjà fait une grève en 82, fin 81, début 82, ça a duré je crois 2 mois et demi. Ça a dû commencer fin décembre et ça s'est terminé le 20 février.
Et ça nous ramène à la manière dont s'y prennent les ouvriers dans le pays de Gex. Apparemment, donc, il y a une tradition assez forte de lutte au niveau ouvrier. Parce que par rapport à d'autres régions, ça paraît...
Dans beaucoup de régions, il y a des grèves très longues. Oui. Souvent, sur les centrales nucléaires, il y a eu des grèves très très longues sur la plupart des chantiers des centrales nucléaires.
Et ça, donc c'est spécifique au bâtiment.
En partie, oui. En partie parce que, bon, les travailleurs du bâtiment sont moins organisés proportionnellement que les travailleurs de la métallurgie, par exemple. Et par conséquent, leur patronat est plus fort et résiste plus durement, en somme, à leurs demandes. La deuxième grève qui a commencé le 15 décembre dans le pays de Gex, c'est toujours en route. C'est Fougerolles sur les chantiers LEP. Eux aussi, ça va bientôt faire. En somme, la semaine prochaine, on arrive à 2 mois. Il y a une dureté, alors que dans leur cas, le problème est, je dirais, plus facile, parce que c'est une question de, je dirais même, de simple décence dans leur cas. C'est même pas aussi compliqué que chez Maillard, où il faut trouver des solutions qui n'existent pas, qui n'ont jamais été faites.
C'est un problème plus local.
Tandis que Fougerolles, c'est un problème relativement simple de paiement de déplacement. Bon, on a eu déjà des bagarres comme ça il y a 10 ans, effectivement, sur le CERN, évidemment, mais là, vraiment, le cas est particulièrement mauvais pour le patron, mais il continue à s'obstiner, quoi.
Et c'est les... Comment dire? Comment ils vivent ces ouvriers? Bon, il y en a une bonne partie donc, qui sont des ouvriers immigrés, comme partout en France dans le bâtiment, hein. Quand ils se retrouvent en grève pendant un mois et demi, 2 mois, eux, ils le vivent comment?
Bon, évidemment, beaucoup de privations, hein.
Ouais.
Beaucoup de privations parce que, bon, soudainement, tu vois, il n'y a plus d'argent. Pour l'instant, bon, alors en plus, eux, le patron a essayé de les coincer au départ. Bon, ils avaient reçu juste avant de partir en grève leurs acomptes pour décembre et puis la prime de fin d'année.
Le 13e mois.
13e mois. Donc, bon, ils ont passé Noël, tu vois, déjà très, très au ralenti et en
En
évitant, en
prévoyance.
prévoyant. Bon, on savait d'avance, hein, que c'est pas une surprise pour nous, on le sait maintenant, ces trucs-là. Donc, les gars ont commencé à faire très attention. Donc, le patron, au lieu de leur payer la paye comme normalement le 6 janvier, il a rien payé. Et il a refusé de payer tant que les gars seraient en grève. Alors qu'on a été obligé d'aller au Prud'homme, à Oyonnax. Et on a réussi, bon, le temps qu'on fasse la démarche, etc. On est passé au Prud'homme jeudi dernier, le 2 février, pour obliger le patron, parce que ça, c'est vraiment, enfin, disons, c'est complètement illégal. La paye qui est due, tu vois, le 6 janvier, elle correspond au travail que les gens ont fourni au mois de décembre. Donc, c'est absolument scandaleux de ne pas la payer. Et puis, en plus, en janvier, les gens ont besoin de leur dernière fiche de paye, ne serait-ce que pour les déclarations d'impôts, enfin, toutes sortes de trucs qui ont lieu là. Et la fiche de paye est quelque chose qui doit être normalement remis à date fixe et il n'y a pas, c'est interdit de ne pas la remettre. Alors bon, en conciliation, les juges prud'hommes ont tout de suite demandé à Maillard d'établir. Alors ils leur ont donné une semaine pour faire la fiche de paye et payer le solde de la paye et le solde de la prime de fin d'année qui était due en somme depuis le 6 janvier.
Ça, c'était quand alors?
Alors, c'était jeudi dernier, le 2 février.
Et ça a
Et
été mis à exécution ou
oui, parce
pas?
qu'il y avait une astreinte de 500 francs nouveaux
Oui.
par bonhomme et par jour de retard à partir de ce jeudi, c'est-à-dire de la semaine qui vient là,
Mais
si la
d'accord,
paye n'était pas
oui.
faite. Alors du coup, la paye, les gars l'ont eu hier.
D'accord.
Alors ça leur a fait une petite rentrée d'argent. Bon, comme ils avaient pris des acomptes, il ne restait pas trop, mais enfin, ça fait toujours une petite rentrée. Enfin, ça veut dire des sommes très très faibles. Et puis alors, comme janvier n'aura pas été travaillé, il n'y a pas du tout d'argent qui va rentrer en somme, bon, maintenant,
Et
quoi.
ça se passe comment? C'est une caisse syndicale qui les
Alors,
aide
il y a
ou...
une caisse de grève. Quand les gars payent leurs cotisations syndicales,
Oui.
il y a une petite partie de chaque timbre de chaque mois où on cotise
Qui est prévu
qui
pour
va
ça.
dans une caisse de grève. Mais enfin, ça ne fait pas des grosses sommes. Parce que comme bon, les cotisations à la CFDT, c'est 0,7% du
Du
salaire.
salaire.
Ça fait quand même pas des. Bon, et puis que si tu rajoutes la caisse de grève, on prend, disons, dans le bâtiment, le minimum pour la caisse de grève. Donc ça fait une allocation de 24 francs par jour, par personne. Alors ça fait quand même pas des grosses sommes, tu vois. Ça permet d'avoir, bon, de manger un peu tous les jours, mais enfin pour ceux qui ont des familles, plutôt juste.
Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont syndiqués, d'ouvriers qui sont syndiqués, et quand il y a un conflit comme ça, est-ce que c'est les ouvriers qui d'eux-mêmes ont envie de faire la grève et de discuter fermement avec leur patron, ou est-ce que c'est plutôt les syndicats qui disent faites attention, vous êtes en train de vous faire marcher dessus, il ne s'agit pas de créer un précédent et nous on a envie que les choses soient ici comme ailleurs.
Oh, dans les cas ici, en tout cas dans le pays de Gex, le syndicat ne peut pas dire ça parce qu'on sait toujours que la lutte va être très très dure. Il faut
Ouais.
vraiment que ça parte des gens eux-mêmes. Parce que,
Donc c'est...
bon, ça je dirais, c'est tout le temps. Les gens ne se mettent pas en grève s'ils n'en ont pas envie. C'est vraiment un des trucs les plus durs à faire. C'est pas naturel, c'est une lutte. Et vraiment, il faut que les gens en aient ras-le-bol pour se mettre en grève. Les cas où le syndicat regarde la situation et dit qu'il faudrait qu'on fasse une protestation générale, on va donc se mettre en grève, comme par exemple des fois pour les actions de fonctionnaires. De dire, regardez, il y a un ensemble, bon, tout le monde se consulte, et puis les gens disent, oui, effectivement, il faut qu'on marque le coup, il ne faut pas qu'on se laisse faire maintenant. Mais je dirais que souvent, les gens disent, les syndicats mettent les gens en grève. C'est drôle pour nous parce qu'on ne peut pas mettre des gens en grève. C'est quelque chose, ça demande vraiment une implication des personnes beaucoup trop profonde pour que ça puisse venir de l'extérieur. Ça, c'est...
Et on a, je ne sais pas moi, en écoutant les informations, en lisant les journaux, j'ai eu l'impression que dans la fameuse grève de Talbot-Poissy, il y avait une solidarité plus grande entre les ouvriers immigrés que d'habitude dans le même cas de conflit entre des ouvriers français. C'est-à-dire que ils avaient moins envie d'obtenir un compromis qui ferait qu'il y aurait que 50% de licenciements en moins et tout. Et qu'ils avaient plus envie de dire, bon voilà, on est tant, on veut rester tant, s'il y a moins de boulot, on est d'accord pour travailler moins, et ça correspondait plus à un bloc que dans d'autres conflits où il y a une espèce de tradition d'offre et de demande. On sait que le patron s'y propose tant de licenciés, on sait à l'avance qu'on pourra en demander tant de moins et qu'il y en aura en fait au milieu et tout, non?
Non, ça dépend. Bon, les situations sont jamais les mêmes. Hein. Mais non, des grèves qui ont refusé des licenciements en bloc, bon, il y a un LIP était un des premiers.
Oui.
Là, il n'y avait pas de,
c'est
y avait pas
un de vieil négociation. Exemple.
Bah oui, mais bon, qui a fait boule de neige? Et en somme, effectivement, on se bat contre les licenciements depuis 73 maintenant, hein, ça fait 11 ans. C'était beaucoup plus dur à l'époque de LIP parce que la situation, il y avait moins de chômage, c'était les premiers, donc...
Il n'y avait pas de précédent.
Il n'y avait pas de précédent, et puis les gens étaient moins découragés, d'une part, et puis... ils avaient l'impression qu'ils pouvaient vraiment les bloquer. Alors que maintenant, il y a une espèce de passivité, et puis de... Enfin, c'est même assez surprenant de la part... Enfin, bon, on a un gouvernement dit de gauche... on dit, bon, ben, on ne peut pas faire autrement, c'est la restructuration, c'est la modernisation, c'est la troisième révolution industrielle. Ah ben, des licenciements, il va y en avoir plein. Bon. Et puis, bon, il y a le sabotage, je crois, qui vient quand même des patrons qui, maintenant, larguent systématiquement des gens, quitte à embaucher d'autres après ou à envoyer leur fric au Paraguay, quoi. Mais, non, ça, je crois que là... Je crois que maintenant, il ne faut pas pousser sur le phénomène immigré, hein. Moi, je vois les gars de Maillard ont des réactions qui sont... ils seraient français, ce seraient les mêmes. Hein. C'est la classe ouvrière française, finalement, les ouvriers, les immigrés, maintenant. Avant, la classe ouvrière, dans sa partie la plus prolétaire, la plus exploitée, c'était souvent les gens de province qui allaient dans la grande ville.
Oui.
Bon, c'était des Bretons à Paris, c'était des Auvergnats à Paris, ou c'était les gens d'ailleurs à Lyon, etc.
Oui, mais quand tu dis ça, justement... pour moi, effectivement, ils peuvent ressembler à la classe ouvrière française il y a un certain nombre d'années. Ils n'ont pas cette tradition qu'a maintenant la classe ouvrière dans ses rapports avec les patronats, avec le patronat, et qui fait qu'il y a un jeu qui s'est installé.
Oh, le jeu, il n'est pas partout.
Non, mais
ça dépend.
Un jeu.
Non,
c'est-à-dire. Des règles, disons.
Bon,
des habitudes.
Effectivement, il faut se méfier de la façon dont la presse souvent présente les conflits.
Mais hein. C'est pour ça que je dis, moi, en fonction de ce que j'ai lu dans les journaux. Hein.
Non, parce que regarde les gars des chantiers navals, ils se bagarrent salement. Bon, sur le département, il y a Pingon. Enfin, là, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, HP ou HK Industrie, là, ceux qui font les grues.
Oui.
Bon, Pingon, ça fait aussi 10 ans qu'ils se battent contre des licenciements. Leur boîte avait été, autrefois Pingon, elle avait été rachetée par un groupe qui était lié à toute la banque Rivo et à toutes sortes de trucs qui ont revendu, qui ont refilé à une banque, à une boîte allemande. Enfin, cette boîte n'arrête pas de changer de directeur. Et à tous les coups, les ouvriers se battent contre les licenciements et les restructurations. Ça fait 10 ans que ça dure par étapes. Bon, finalement, il y a des gens qui s'en vont parce que, bon, ils en ont un peu marre de se bagarrer. Y a une autre boîte aussi à Belay, la tannerie, qui se bagarre. Bon, c'est moitié immigré, moitié français, je crois. Je crois qu'il ne faut pas exagérer le fait. Bon, il se trouve qu'à Talbot, effectivement, toutes les usines de bagnoles, depuis 25 ans, ils n'embauchent que des immigrés. Alors évidemment, tu trouves là une grande majorité d'immigrés.
Donc la différence qu'on ressent, elle viendrait peut-être en grande partie de la manière dont on en parle. Si les journalistes en parleraient différemment parce que ce ne sont pas des Français nés en France.
Oui, non, le truc à Talbot qui était particulier, c'était l'existence de la CSL. C'est-à-dire l'ancienne CFT, qui était un syndicat maison installé sous pression et, bon, une situation qu'on ne retrouve pas partout en France. Enfin, je dirais Talbot avait ça de très particulier. C'est qu'en somme, tu as tout un encadrement de gorilles du patron et puis une frange alors d'ouvriers qui ont été absorbés par cette espèce de faux syndicat qu'est la CSL. Qui par conséquent ont une attitude beaucoup plus pro-patronale et puis qui sont un peu mobilisables par rapport au reste de l'entreprise contre des grévistes éventuels. Mais ça, c'est une situation effectivement très particulière à Talbot et à Peugeot. Et puis c'était aussi comme ça, je crois, chez Citroën, je ne sais pas où ça en est maintenant. Mais non, il y a beaucoup de grèves où les Français se battent contre les licenciements avec la même énergie. Tout à fait. Non, au contraire, dans les Vosges. En ce moment, il y a des luttes quand même extrêmement dures de tous les gens qui, justement, veulent le travail chez eux. Non, non, il y a beaucoup... Et en Bretagne aussi, il y a beaucoup de gens qui...
Comment dire ? Ça serait bien de parler de ça, de parler de ce qui se passe un peu partout en France, vu aussi du côté CFDT, donc à quel cas appartient. Et on pourrait en parler après un peu de musique. Pour se reposer un peu. Simplement, est-ce que tu veux encore quelque chose à dire à propos de Maillard Duclos ici ?
C'est-à-dire qu'on nous a envoyé effectivement les gendarmes pour nous virer des bureaux et du dépôt vendredi matin à l'aube. Ce qu'on a trouvé un peu, un peu inutile et puis provocateur. Parce que, il y avait manifestement de la part du préfet, du sous-préfet, une volonté de créer un incident. Parce que l'occupation des bureaux et du dépôt ne gênait pas le travail, dans la mesure où il n'y avait personne pour travailler. D'ailleurs, ça s'est vu. Une fois que vendredi, les forces de l'ordre ont été là, qu'ils ont eu le dépôt, il n'y avait pas un ouvrier pour travailler. Il y avait deux cadres et puis trois chefs de chantier. Puis
c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé donc après ?
Les ouvriers, c'est-à-dire le patron a déménagé tout le matériel de bureau. Alors, c'était pas pour travailler, il l'a emmené on sait pas où. Et puis, il commençait à déménager le contenu du dépôt. Alors là, ça a commencé justement, on a failli avoir un affrontement. Et puis, il y a eu une négociation. Et effectivement, les forces de l'ordre ont reconnu que le jugement disait qu'il fallait donner la liberté du travail, mais ne disait pas qu'il fallait déménager l'entreprise et ni la liquider. Alors, ils ont effectivement dit au patron, non, maintenant, vous arrêtez le matériel qui est là. S'il n'y a pas d'ouvriers pour travailler, vous le laissez. Et comme il n'y avait pas d'ouvriers pour travailler, les choses sont restées en l'état.
Donc, portait comment ? Il avait embauché d'autres...
Il avait pris justement l'entreprise du Nant, l'entreprise Pellichet, parce qu'il n'avait personne dans sa boîte pour le déménager. Alors bon, mais c'était complètement ridicule de... alors c'était les gendarmes du coin. C'est bon, ça s'est passé en douceur, parce que les gendarmes venaient tous les jours vérifier que tout se passait bien, ils venaient prendre le café tous les matins, faire les photocopies, parce qu'apparemment la pauvre gendarmerie de Fernay n'a pas de photocopieuse.
Alors il n'y a plus la photocopieuse
Justement, l'entreprise Maillard et Duclos, qui aimait bien être bien avec les gendarmes, avait apparemment toujours fourni les photocopies aux forces de l'ordre. Donc, le bureau étant occupé, les ouvriers continuaient à laisser les gendarmes venir faire les photocopies. Copie. Et puis la jour-là, les gendarmes sont venus prendre le café un peu plus tôt que d'habitude, mais les gars leur ont ouvert, et puis hop, les autres sont rentrés dans la foulée. Puis comme les gars connaissaient les gendarmes, ils n'allaient pas leur taper sur la gueule, quoi. Enfin, ça s'est bien passé, mais c'était vraiment de la provocation, parce qu'ils cherchaient à ce qu'il y ait une bagarre, quoi.
Ça renvoie ça au rapport que les syndicats et les ouvriers ont avec... Les pouvoirs publics, est-ce que ça a changé beaucoup ?
C'est-à-dire, nous, c'est la première fois qu'on a les forces de l'ordre. Alors, on se demande si c'est... pourquoi ? On s'est posé la question de savoir si c'était justement... Enfin, on est dans une région de droite. Le préfet, manifestement, n'est pas du tout favorable aux luttes des travailleurs. Et on s'est demandé si c'était justement une sorte de sabotage du gouvernement de gauche, quoi, pour essayer de montrer que c'était la gabegie et puis que les gens se tapaient sur la gueule sous la gauche, quoi. On se pose des questions, quoi. Pour nous, c'est pas du tout correct. Enfin, c'est pas correct de les avoir envoyés dans la mesure où on troublait pas du tout l'ordre public. Et le fait qu'il les ait envoyés, ça, pour nous, ça relève de la provocation. Alors, enfin, on essaye de savoir justement si ça fait partie de la politique gouvernementale ou si c'est justement un sabotage par l'administration de la politique gouvernementale. On se pose la question, c'est vraiment ouvert.
Vous ne savez pas si le préfet donc de Bourg appliquait des directives ou s'il a choisi délibérément lui de le faire en sachant que ça n'aurait pas été demandé par ses supérieurs.
On n'a aucune idée. Justement, on se pose la question.
Bien, on écoute un peu de musique. bien, alors maintenant, on pourrait un petit peu quitter la situation de Maillard et Duclos et profiter de ce côté-là pour parler de ce qui se passe en France au niveau des syndicats et donc de la CFDT dans la préparation de grands débats qui sont en train de se faire au niveau de la situation du travail, dans les restructurations, dans les problèmes d'évolution de l'industrie, d'économie en France, à l'intérieur d'un gouvernement de gauche d'une part, et puis par rapport à l'Europe, par rapport à la crise, par rapport à la sortie de crise, des trucs comme ça. Est-ce que cette situation à Maillard-Duclos est déjà une situation particulière ou est-ce qu'elle ressemble à beaucoup d'autres situations en France? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pourrez...
C'est-à-dire, ce qu'il y a de commun en France avec Maillard et Duclos par rapport à la CFDT,
Ah!
effectivement.
Attends, je m'excuse, j'ai oublié d'ouvrir le micro. Voilà,
C'est pas.
tu peux reparler.
Mais
Moi,
ta
on m'entendait,
présentation.
mais juste toi, on t'a pas entendu parce qu'on n'a pas le même micro.
Ah
Donc
d'accord, bon, c'est pas
voilà,
gênant.
ça
Bon, il y a un
va.
truc que j'avais oublié tout à l'heure. En parlant de Maillard et Duclos, on reste là-dessus pour un moment. J'avais oublié de dire que s'il y avait des gens qui se sentaient solidaires, puis qui voulaient les aider à continuer le combat, ils pouvaient verser quelques oboles et quelques moyens de solidarité au compte de l'Union locale. Ça, si je peux le donner?
Oui, bien sûr. Hein.
Alors, c'est donc le compte de l'Union locale CFDT du Pays de Gex, qui est ouvert au Crédit Lyonnais à Ferney-Voltaire. Et c'est le compte 50 023 Y au Crédit Lyonnais à Ferney-Voltaire, compte de l'Union locale CFDT.
D'accord, alors je pense que c'est le plus simple, c'est que maintenant, les
Oui.
auditeurs, vous savez qu'il y a un numéro de compte et on le redonnera à la fin de l'émission. Comme ça, si vous avez envie de le noter, vous avez le temps de prendre un crayon et du papier. Et on continue, nous.
Bon, ce qu'il y a, bon, maintenant on a fait une proposition dès le début de partage du temps de travail et de formation. Proposition qu'on n'aurait pas faite aussi clairement il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. Il y avait eu déjà des licenciements dans le bâtiment dans le pays de Gex chez Blatrix. Et en 76, finalement, on était arrivé à soi-disant recaser les gars dans d'autres entreprises et puis à leur proposer des formations. Donc finalement, les propositions qu'on fait maintenant, bon, la formation, elle a toujours été faite parce que c'est quand même toujours plus pratique pour retrouver du travail, d'avoir une qualification supérieure ou d'avoir plusieurs qualifications différentes. La solution avant était de recaser les gens dans d'autres entreprises. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus
Aléatoire,
aléatoire,
ouais.
oui. Et chaque entreprise, surtout dans le bâtiment, diminue, diminue, diminue. Donc la solution, c'est pas de recaser dans d'autres entreprises, c'est plutôt de partager entre travailleurs le travail qu'il y a à faire, de façon à ce que chacun reste au moins dans une structure d'entreprise. Parce qu'un des problèmes du chômage, c'est aussi, d'une part, le problème de l'argent, c'est aussi le problème du fait que les gens sont largués dans la nature et dans notre civilisation, en somme, on dépend énormément du travail qu'on fait et des relations de travail. Et le fait d'être sans relation de travail, sans point d'ancrage, est extrêmement dur pour pas mal de gens. Bon, le problème financier compte, mais souvent dans les licenciements économiques, le problème financier n'est pas le premier au début. Le plus gros problème, c'est le fait que brusquement, les gens ont l'impression de plus servir à rien. C'est dommage, c'est parce qu'ils n'ont effectivement pas suffisamment développé d'autres intérêts,
Oui, en
mais
dehors du travail.
en dehors du travail. Mais malgré tout, je vois même, bon, quand moi j'étais en chômage, ou même d'autres militants, où on a en somme toute une activité extérieure au travail, le fait de plus avoir d'ancrage dans une fonction sociale, c'est assez dur pour tout le monde.
Et ça, par exemple, bon, je te coupe un peu là, le fait que les gens soient tellement impliqués dans leur travail que quand ils le perdent, ils se sentent un peu démunis de leur personnalité même. C'est quelque chose qui est rentré dans comme une question à l'intérieur de la CFDT, des syndicats, pour dire, bon, même en dehors des chômeurs, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse là-dessus? Même si, même pour les gens qui ont un travail, c'est pas très sain, ça.
C'est-à-dire que, dans un sens, oui et dans un sens non, parce que il y a quelque chose qui est souvent fait, c'est une coupure entre le travail, la vie de travail,
oui,
et puis le reste de la vie.
Oui.
Bon, ça, on pense que c'est pas bon. On pense qu'il faut,
oui,
intégrer les deux. Bon, autrefois, quand les gens sont fermiers, même maintenant, leur vie personnelle et leur vie de travail est complètement mêlée. Les gens qui fréquentent dans l'un et dans l'autre, c'est la même chose. Il y a une unité de la personne. Bon, maintenant, on a souvent une rupture et les gens se comportent d'une certaine façon dans leur travail, puis se comportent d'une autre façon à l'extérieur. Et puis les gens qui fréquentent ici et là ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, il y a des tas de ruptures. Et puis, par exemple, les gosses et la famille n'ont aucune relation avec pendant les heures de travail. Il n'y a pas de relation avec les parents quand ils sont à leur travail. Pour beaucoup de gosses, le travail des parents, c'est très mythique. Enfin, ça se voit pas. Bon, là, il y a une rupture. Qui n'est pas normal. Il faudrait, je pense, beaucoup plus d'unité.
Surtout si on arrive à avoir moins d'heures de travail, si le travail est simplement considéré comme un mal nécessaire, les gens vont travailler, vont se débarrasser de ça.
Oui, mais attention, parce que autrefois, quand on n'avait pas d'industrialisation ou dans une civilisation autre où on n'est pas salarié, chacun doit contribuer à maintenir les besoins, à trouver ce dont il a besoin pour ses besoins. Donc on a tous un effort à faire d'une certaine façon pour contribuer à manger tous les jours et à se vêtir et à se loger. Bon, la rupture avec le travail, elle vient à partir du moment où le travail salarié est complètement déconnant quelquefois, et puis où on est sous une pression et sous une obligation qui est, bon, ce qu'on dit aliénant, enfin, qui nous empêche de vraiment vivre le temps qu'on travaille. Mais bon, il n'y a pas de miracle, la Terre ne produit pas toute seule. Donc il y a toujours besoin que chacun contribue pour ce qu'il consomme. Bon, plus on consomme et plus il faut contribuer, moins on consomme, moins on a besoin de contribuer. Mais de toute façon, il y a toujours une partie où chacun contribue. Et ce qui est dommage, c'est que la partie contribution actuellement, elle est enflée, parce qu'en somme, on travaille beaucoup plus que ce qu'on a besoin de travailler. Il y a un gaspillage tel que... Bon, justement, c'est des gens, je crois, de la CFDT qui avaient publié ce bouquin « Travailler 2 heures par jour ».
Oui.
Et effectivement, s'il n'y avait pas le gaspillage qu'il y a dans notre société, si on retirait toutes les choses dont on n'a pas besoin, y compris éventuellement les centrales nucléaires et le reste, les armements, bon, déjà là, on pourrait tous vivre bien en travaillant moins. Mais aussi, on pourrait avoir un rythme de travail qui soit moins séparé de notre vie.
Et si d'ailleurs, enfin, moi je me rappelle quand j'avais lu ce livre, j'étais pas du tout d'accord avec les conclusions, parce que mathématiquement c'est vrai, si on enlève tel temps de travail passé à produire des choses inutiles et tout, on arrive à 2 heures. Mais en fait, si on change de manière de travailler, pour moi il est clair aussi que on travaillera avec des méthodes qui seront moins rapides et tout, et qu'on passera plus de temps à faire des choses que maintenant.
Hein. Justement, on peut travailler, et puis ça peut être chouette de travailler.
Oui, c'est ça. Oui. Enfin, c'est pour ça, moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec cette histoire de dire, bon, voilà, youpi, on va arriver à travailler que 2 heures.
Non, on peut travailler 4 heures.
En considérant toujours le travail de la même manière.
Quand on fait quelque chose qui vous plaît, on peut travailler 10 heures par jour, puis c'est vachement chouette. Mais bon, à condition de ne pas être obligé, que ce soit pas dans des conditions dégueulasses, et puis bon, tout ça. Mais bon, c'est ça, le temps de travail, et puis on était parti de l'ancrage.
Oui.
Il est certain que la société actuelle, oblige à un certain ancrage pour pouvoir faire le reste, en somme, parce que, bon, t'as l'ancrage travail, t'as le salaire, t'as la sécurité sociale, t'as tout l'ensemble. Et puis t'as une espèce de reconnaissance sociale, bon, effectivement, peut-être un peu artificielle, mais quand même, qui est importante pour les gens. Puis c'est surtout que beaucoup de gens ont été en somme démunis du reste de leur personnalité, parce que bon, bah, ils sont obligés de travailler, puis ça leur prend toute leur énergie, puis ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et à partir du moment où d'un seul coup on les bloque, bah, qu'est-ce qui reste?
Et donc ça, c'est quelque chose dont vous parlez à la CFDT?
Bah oui, tu sais, forcément.
Est-ce qu'il y a des conclusions que vous tirez? Dire pratiquement, est-ce que vous dites qu'il faudrait, je sais pas, arriver à avoir une autre manière de considérer le travail
Oui, si tu
ou est-ce que
veux.
c'est simplement bon, une réflexion, une constatation sans possibilité d'agir pour transformer la mentalité?
Oh ben si, parce que quand même, toutes les choses auxquelles on pousse, si tu veux, on ne débat pas d'une façon, je dirais, abstraite, au niveau des idées, mais quand on débat entre nous, on débat à partir de situations dans des entreprises.